Ce matin, je vous invite à la lecture de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 1, les versets 9 à 19. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Moi, Jean, voilà comment commence ce texte. L'auteur se présente, il écrit à des chrétiens qu'il connaît, et la première chose qu'il dit, c'est « Je suis l'un d'entre vous, je partage votre sort. Je vous écris ce livre qui est l'Apocalypse, c'est-à-dire non pas la catastrophe, mais la révélation de Jésus-Christ. Mais je n'ai pour le faire pas d'autre autorité que celle d'être un témoin de Jésus-Christ. Pourtant, nous apprenons que ce Jean connaît un destin singulier. Il a annoncé la parole de Dieu, il a été dans le monde un témoin fidèle de Jésus, et cela l'a conduit à Patmos, une petite île de la mer Égée, où il est assigné à résidence par l'administration impériale que son ministère dérange. Quant à la situation des églises qu'il connaît et décrit, situées en ce pays qui est maintenant la Turquie, elle n'a rien de très glorieux. Elles sont soumises à une persécution plus ou moins violente. Ça dépend laquelle on regarde. En outre, des faux prophètes se glissent parmi elles, qui se disent apôtres et ne le sont pas. Certaines de ces communautés peuvent perdre courage devant ces risques extérieurs et aussi les dangers intérieurs, qui ne sont pas des moindres. Alors tout cela n'est pas brillant. C'est alors que le message est envoyé à ces communautés. Tenez bon. Celui qui vous écrit, moi-même, je suis votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus. Et je vous atteste l'amour et la puissance de vie du Christ, car il accompagne ma vie comme il veut accompagner la vôtre. Ces églises commencent à découvrir qu'il n'est pas toujours facile d'être chrétien dans le monde. À chaque pas, une épreuve. On leur demande « Pourquoi ne vivez-vous pas comme on vit en ce monde ?» Je pense que c'est la question qu'on nous pose aussi. Vous ne semblez pas avoir les mêmes valeurs que nous. Vous voulez obéir à un Seigneur que vous mettez plus haut que l'empereur, que la République. Mettez ce que vous voulez, hein. Ça s'adapte sans problème. Vous ne suivez pas les règles évidentes de toute vie sociale. Vous êtes donc des éléments marginaux, de dangereux idéalistes, qui sapaient secrètement les fondements les plus sûrs du monde civilisé. Voilà quelque part ce qui est reproché. Et à chaque pas, l'épreuve exige la persévérance. Malgré ces reproches qui tournent vite aux menaces, il faut tenir bon, parce que la foi est aussi fidélité. Alors fidèle, oui, disent ces chrétiens, mais jusqu'où ? Et dans leur réponse, peut-être ils hésitent. Nos églises sont petites et faibles en face de l'Empire. Il ne servirait à rien de nous opposer ouvertement. D'ailleurs, la religion n'est-elle pas une affaire privée, une question de conscience ? S'il faut se prosterner pour vivre sans problème, pourquoi ne pas faire ce geste en gardant dans son cœur la foi en notre Seigneur Jésus-Christ ? Évidemment, beaucoup ne peuvent accepter ces calculs qui prétendent savoir estimer la valeur de deux obéissances qu'on pourrait tranquillement additionner. Et c'est justement pour les encourager que Jean écrit l'Apocalypse. Parce que lui-même n'a pas transigé, mais qu'il nous appelle à ne pas transiger. C'est le fait de ne pas transiger qui l'a amené à Patmos. On ne peut pas tout concilier. On ne peut pas mélanger le froid et le chaud sans devenir tiède. On lit ça dans la suite du livre. Et le Christ demande qu'on le suive, lui seul. Être chrétien est donc inconfortable et même, à terme, en tout cas pour ces églises à ce moment-là, et pour bien d'autres dans le monde, dangereux. On comprend qu'il y ait des chrétiens qui hésitent à payer d'un tel prix la fidélité. Ce service pour rester fidèle est une constante lutte contre les tentations, dont la première serait de renoncer. Et en fait, il n'est pas de vocation chrétienne sans la volonté tenace de poursuivre le chemin à la suite du Christ, avançant chaque pas dans la confiance que la force va nous être donnée par Dieu d'en avancer un autre. Il n'y a pas d'autre façon de marcher. Alors l'épreuve et la persévérance, cela a de quoi inquiéter, mais dit Jean, ce n'est pas tout. Si le chemin de la foi est étroit et rude, il est aussi magnifique. Vous avez part à l'épreuve et à la persévérance, vous participez donc aussi à la royauté. Laquelle ? Évidemment, le roi n'est pas l'empereur là, hein, mais le Christ. Alors peut-être, se dit-on, ça ne se voit pas. C'est parce que cela ne relève pas de la constatation, surtout pas de la preuve. C'est une réalité pour la foi. C'est la révélation de Jésus-Christ, celle qui apporte le bonheur à celui qui la reçoit. Jésus est roi. Par la foi, nous le savons. Le monde, les hommes, nous-mêmes, ne sommes pas seulement ce que nous voyons, estimons, déplorons ou craignons. Et voilà quelque part l'Évangile, hein, le nouveau monde, le monde nouveau éclos sous nos yeux et nos yeux s'ouvrent à cette lumière. « Voici, je fais toute chose nouvelle, dit Jésus. C'est fait. Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de son Christ. » Les fidèles participent à la victoire du Christ sur les forces du mal. Ça a été bien développé par le pasteur Samuel Cabot les deux dimanches passés. Quand bien même ils paieraient du martyre leur témoignage, c'est alors que serait proclamée à la face du monde la vérité d'une vie qu'ils ne doivent qu'à Dieu. Ils sont rois à jamais d'un royaume que personne sur terre ne peut anéantir. Voilà la réalité. Jean est le serviteur de cette révélation qui est parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui seul peut faire qu'un homme la reçoive et la transmette. C'est un évangile qui est destiné ici en premier lieu aux églises d'Asie mineure et à leurs fidèles, qui hésitent, qui doutent, qui tremblent. Ils ne sont rien face au pouvoir immense de l'Empire qui s'irrite de leur présence. Et pourtant, ce sont eux qui témoignent ici-bas que le pouvoir véritable, la victoire dernière et la vie éternelle sont des réalités offertes à la fois, tout comme nous le faisons aussi aujourd'hui. Bien sûr, nos communautés ne vivent pas sous la persécution, en tout cas pas sous une persécution violente qui entraîne mort d'homme, du moins dans notre pays. Suivant à quel endroit on va prêcher ce texte, on ne dira pas la même chose. Il est rare que de nos jours en France, nous soyons inquiétés à cause de notre foi, mis à l'index parce que nous sommes chrétiens. Mais quand même, on n'est pas spécialement les bienvenus. Nous sommes considérés comme au minimum des originaux ou des dinosaures, de ceux qui sont restés à un siècle révolu. Alors nous réalisons que nous sommes une minorité, que le vrai chrétien, comme le disait déjà le réformateur Luther, est un oiseau rare. Nous sommes ainsi appelés à vivre un temps de vérité, à être le petit troupeau à qui le Père a jugé bon de donner son royaume et qui en est témoin. L'Apocalypse est un livre pour les églises, et on pourrait dire pour l'Église avec un grand E, pour l'Église dont les communautés cheminent si difficilement, parfois même si misérablement sur la terre. Mais cette première version nous dit à nous, vous les chrétiens qui doutez, vous dont la fidélité vacille si souvent, vous qui êtes faibles, petits, méprisés, vous êtes plus que ce que vous croyez être. Vous êtes plus que ce que le monde voit. Vous êtes du ciel. Vous êtes du ciel. Votre véritable identité n'est pas celle que les hommes vous reconnaissent. C'est celle que Dieu vous accorde. C'est celle que Dieu dit que vous avez. Dieu vous regarde et vous voit dans votre réalité dernière, celle qui ne se laisse pas réduire aux apparences. Vous êtes les enfants du Père Céleste, nés d'une nouvelle naissance. Cette naissance fait de vous des citoyens de la Jérusalem nouvelle qui vous attend auprès de Dieu. N'oublions pas que dans cette vision de l'Apocalypse, les églises sont symbolisées par des chandeliers et même des chandeliers d'or. Ceci pour nous rappeler que toutes les églises, de même que tous les chrétiens, ont pour mission d'être lumière, de porter la lumière. Toutes les églises, même les plus petites, même les plus fragiles, même les plus persécutées, tous les chrétiens, même les plus âgés, les plus fatigués, même les plus jeunes, qui sont souvent débordés par beaucoup d'activités, tous les chrétiens, même nous. Christ apparaît au milieu des sept chandeliers, c'est-à-dire des églises, pour montrer qu'il veille sur elles et qu'il leur communique la lumière et la vie. On ne peut parler des chandeliers que sont les églises sans dire qu'elles entourent celui qui les fait être. Et nous allons nous arrêter un instant sur cette description, même si, je vous le dis tout de suite, on ne pourra pas analyser en profondeur chacun des symboles de cette vision. Ça serait trop long. Alors cette personne qui est au milieu, est-ce Dieu ? Oui, celui qui apparaît maintenant porte bien les titres de Dieu lui-même. Il est le premier et le dernier, comme le prophète Ésaïe le disait, du Très-Haut. Mais il est vêtu comme un prêtre de rang royal et il a une apparence humaine. Il est comme un homme. C'est ainsi que Jean le voit dans la vision destinée à nos yeux d'humains. Alors écoutons, je vis quelqu'un comme un fils d'homme, comme un homme. Comme ça sous-entend que l'image est une approximation quelque part. Elle est une tentative. maladroite, sûrement imparfaite, parce que humaine, d'exprimer ce qu'est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Et ceci est vrai des visions en général. Ceux qui ont entrepris d'illustrer l'Apocalypse en la lisant mot à mot ont parfois pu réaliser des œuvres admirables, mais ils sont le plus souvent passés à côté de ce que les visions voulaient dire. Ça ne suffit pas de voir, il faut aussi recevoir et comprendre. Pire, parfois on a été habitué à lire ce livre, qui est une révélation de Jésus-Christ, comme une BD de science-fiction. Or, les visions ne sont pas tant à regarder, mais à comprendre. L'apparence n'est rien si elle ne conduit pas à la signification. Et ne pas comprendre ça, c'est un contresens qui est déplorable. C'est fermer les yeux sur la révélation de l'Apocalypse. Alors reprenons ce personnage anonyme, tout en portant les noms de Dieu, prononce aussi les jugements comme Dieu lui-même. Or, il apparaît comme un homme. Pour nous, il est évident, je pense, que Dieu en figure d'homme, c'est le Christ. Et d'ailleurs, la suite le précise. Il a connu la mort, mais il vit à jamais. Il a remporté la victoire sur la mort et sur son royaume ténébreux. Là aussi, ça a été bien développé les semaines passées, à la fois à la croix, mais aussi dans les 3 jours entre la croix et la résurrection. Il fait briller sur le monde une lumière dont le soleil est comme une parabole. Tout est dit quelque part avec cette vision. Et ce qui doit arriver ensuite est conditionné, peut-être faudrait-il dire inclus, dans la révélation de cette vision première. Et la suite, c'est non seulement la suite du livre, mais c'est aussi notre histoire. Hein. Notre histoire à nous est éclairée et transformée par cet évangile qui est pour nous une mise à l'épreuve, qui nous revêt de la gloire royale et qui exige de nous une fidèle persévérance. Autre caractéristique de l'apparition, les cheveux blancs, la tête aussi, auréolés de lumière et de la gloire de Dieu, le blanc de la transfiguration, de la résurrection, le blanc qui deviendra un symbole de pureté et de foi. Nous trouvons aussi mention de ses pieds semblables à de l'airain ardent, comme pour dire que rien ne peut s'opposer à la marche du Seigneur. Aucun obstacle, aucune volonté ne peut l'empêcher de marcher. Le Christ est en marche, il vient à nous, il domine n'importe quelle fournaise, n'importe quel feu. L'habit lui-même dans lequel le Christ apparaît a une importance symbolique énorme, puisque la longue robe portée est l'habit dans lequel nous pouvons reconnaître la tenue du grand prêtre. Et la ceinture d'or est un attribut de roi. Habit de prêtre, attribut de roi. Alors même si nous simplifions la lecture, nous ne pouvons nous empêcher de voir dans le personnage décrit un personnage hors du commun, entouré de la gloire de Dieu, venant vers l'homme, proche à le toucher pour le délivrer, le relever, lui rendre sa dignité et son espérance. Nous avons été invités à saisir le fait que Jésus a vaincu la mort, qu'il a vaincu le pouvoir qui retenait la mort, qu'il a vaincu le monde des ténèbres, ce Sheol. Et quelque part, cette vision vient poser cette chose-là. À force de vouloir déchiffrer les symboles et décrypter les codes, ne passons pas à côté de l'essentiel. Si nous regardons au dernier verset de ce texte, ils nous disent « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant, pas une fois pour me faire voir, au siècle des siècles. Je tiens les clés du séjour des morts. » Ces paroles sont accompagnées d'un geste, la main du Christ qui s'est tendue si souvent vers les petits ou les grands, qui rendit la vie, l'espérance, la joie, la foi à tant d'hommes et de femmes dont parlent les évangiles, mais aussi l'histoire de l'Église et de nombreux témoignages. Cette main, Jésus l'attend ici vers Jean, mais il l'attend aussi vers nous. Elle nous fait avancer sur le chemin qui mène à Dieu. Elle témoigne, cette main, de la victoire totale de Jésus-Christ sur la mort, sur la sienne évidemment, mais aussi sur la nôtre. Cette main qu'il tend nous rappelle, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Cette vision nous amène aussi vers ce jour où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Parce que quand on observe, qu'on reçoit cette vision, qu'on la lit, même si on ne la comprend pas complètement, il y a une chose qui sort, c'est que Christ est Seigneur. C'est ce que proclame cette image. Et c'est, je crois, ce qui nous est donné à contempler ce matin. Ce message veut s'imposer à nous dans nos angoisses, dans les angoisses que nous cause l'évolution du monde. Et elles sont nombreuses, certainement. Mais aussi face à toutes ces forces et puissances qui, devant les agressions, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, veulent nous écraser et nous asservir de l'intérieur, que ce soit personnellement ou aussi communautairement en tant qu'Église, toutes les attaques que nous pouvons subir, qu'elles viennent de l'extérieur ou qu'elles viennent parfois de nous-mêmes. Voilà, avec cette vision, encore une fois, nous sommes portés vers ce déchirement du voile qui relie le ciel et la terre et qui nous donne à voir aussi plus loin. Et je crois que là aussi, voir plus loin, c'est parfois une attitude qui va nous aider, qui va nous élever. Là se trouve Jésus qui tient dans sa main le commencement et aussi la fin de ce monde. Et nous découvrons aussi le but vers lequel ce monde tend. Et peut-être il nous faut le rappeler. Tant autour de nous, les messages sont faussés. Je ne l'ai pas développé en introduction, mais quand on dit Apocalypse, pour les gens, c'est catastrophe, hein. Et donc, on nous présente sans arrêt des choses qui sont terribles. Elles seront certainement terribles pour beaucoup. Mais pour nous, c'est la gloire que nous allons voir. Alors évidemment, ce monde poursuit sa route et nous n'avons pas à nous forcer beaucoup aujourd'hui pour imaginer le pire vers lequel ça continue à tendre. Mais Christ sera le dernier. Voilà la bonne nouvelle. C'est lui qui est mort sur la croix. Voilà notre consolation dans les difficultés et les agressions qui nous touchent. Nous pouvons savoir que nous avons un but désigné de façon incontestable. Tous les mystères de ce monde, tous les malheurs sont portés dans ses mains par celui à qui appartient la victoire. Notre chemin nous conduit vers lui. La puissance dernière reste la mort qui détruit toutes choses et les rend vaines. Cette puissance a été déjà anéantie. Elle ne peut plus rien. La mort doit rendre sa proie parce qu'il y a là plus puissant qu'elle. Et lors de chaque culte, ce plus puissant parle à son Église. C'est aussi pourquoi le culte est autre chose qu'une assemblée humaine. Parce que quelque chose de l'éternité y fait irruption, dans notre temps. Et nous aussi, dans notre temporel, nous découvrons quelque chose de l'éternité. Nous discernons ce vers quoi nous tendons, nous puisons des forces pour tenir ensemble en Église jusqu'à la fin. Le visage que Jean voit resplendit comme le soleil, et nos visages à nous aussi doivent refléter un peu de ce soleil qu'est Jésus-Christ pour le révéler au monde. Ça, c'est quelque chose qui est exigé de chacun à la place qu'il occupe. Et nous le pouvons, pas par nous-mêmes, pas parce que nous ferions beaucoup d'efforts, mais parce que nous appartenons à celui qui a vaincu toute chose et qui tient tout pouvoir dans sa main. Alors l'extraordinaire vision, et je terminerai par là, est un envoi en mission. Et pour cette mission, comme Christ le dit à Paul en ce fameux verset, « Ma grâce te suffit ». Voilà donc défini pour nous un programme et un moyen. Et le programme n'est pas de changer la planète, même si nous avons des choses à apporter ici ou là. Il n'est pas non plus de rester chez soi à attendre que Jésus revienne. Être chrétien, être église, c'est être apôtre, c'est être missionnaire, c'est annoncer Jésus-Christ. La foi n'a pas et ne doit pas avoir d'autres projets. L'église ne saurait avoir d'autres buts. Elle n'a pas de sens en dehors de ça. Ça n'est pas l'église qui produit le salut. En revanche, elle est un chandelier et donc une lumière qui doit briller dans les ténèbres de notre monde. L'espérance entrevue par Jean à Patmos, c'est aujourd'hui encore notre mission. Et si nous réfléchissons quelques minutes, combien de femmes et d'hommes près de nous ignorent tout du généreux pardon, du salut gratuit, de la mort et de la résurrection, de celui qui seul est la vie véritable. Combien de personnes? Combien de gens parmi ceux que nous rencontrons quotidiennement s'enfoncent dans la mort sans avoir la moindre idée que quelqu'un les aime et peut leur donner la vie dès cette existence-ci? Alors bien sûr, pour cette mission, il reste notre faiblesse quelque part, hein. On se dit, waouh. Mais justement, c'est avec ce matériau que Dieu travaille. Il reste nous, tels que nous sommes, avec notre petite foi, notre petite église, nos petits moyens. Et la seule chose que nous avons à notre disposition, c'est que non, on ne peut pas montrer, là, comme ça, le Christ. Pas en tout cas au sens où les gens voudraient le voir. Pas directement. En revanche, on peut être dans une telle proximité avec le Christ que sa lumière rejaillit à travers nous. Et c'est cela que nous devons être. La faiblesse du chrétien qui seul peut être habité par la grâce de Christ, par la puissance de Dieu qui nous envoie. Et cette puissance-là est bien suffisante. Christ se tient au milieu de ses églises. S'il n'y a aucune raison d'avoir confiance en nous-mêmes, il n'y a pas non plus de raison de reculer, de rechigner, d'hésiter, de tergiverser. Parce que Christ est au milieu. Sa grâce est avec nous et son esprit nous est donné. Et aussi parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Oui, Jésus est vivant et il nous envoie. C'est là notre place, c'est là qu'est l'Église dans sa mission. Amen.